Bonsoir. Ce mardi 16 février, les Congolais commémorent le 24e anniversaire des martyrs de la démocratie. Un anniversaire qui divise la classe politique congolaise. L'opposition a appelé à une ville morte pour dire non à la révision de la Constitution. Tandis que le gouvernement de son côté a demandé à la population de vaquer normalement à ses occupations. Comment analyser cette situation? Je reçois comme invité pour en parler André-Alain Atundu Liongo, porte-parole de la majorité présidentielle. Monsieur l'ambassadeur Atundu, bonsoir.
Bonsoir.
Honorable Christophe Lutundula, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député national de l'opposition et président du parti politique Mouvement de Solidarité pour la démocratie et le développement MSDD, membre du G7. Professeur Jean-Pierre Mbouébois, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue et enseignant à l'Université catholique au Congo. Bonsoir et bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Ce mardi 16 février, les Congolais commémorent le 24e anniversaire des martyrs de la démocratie. Mais un des initiateurs de cette marche de l'époque au sein du comité laïque de coordination devenu aujourd'hui collectif du 16 février, Abbé José Mpundu, regrette la récupération politicienne de cette journée à des fins égoïstes. On écoute au micro de Jeff Ngroy.
Je trouve ça regrettable que le mot-clé de cette marche du 16 février, c'était ensemble, de toute catégorie, de toute confession religieuse, avec ce qu'on appelle le principe de la commune humanité. Nous étions tous habités par une même vision, un même objectif. Eh bien, ce mot ensemble, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'est plus au programme parce que tel groupe essaie de récupérer le 16 février pour ses intérêts, tel autre groupe essaie de récupérer le 16 février pour ses intérêts, alors que nous devons savoir que la marche du 7 février 92 n'était pas l'initiative ni de l'abbé José Mpundu ni d'un groupe politique de l'UDPS ou d'un autre parti politique de l'époque. Non, il est dommage que le 16 février on se tiraille et que chacun essaie de tirer la couverture de son côté pour des intérêts tout à fait, je dirais, égoïstes, mesquins.
Vous le savez, ce mardi 16 février, l'opposition a appelé la population à observer une journée ville morte sur toute l'étendue de la RDC. L'objectif étant de dire non à la révision de la Constitution et oui à l'alternance au pouvoir le 20 décembre 2016. Pour sa part, le gouvernement de la République a demandé à la population de vaquer normalement à ses occupations. Quelle était la situation sur l'étendue du pays? Berry Franklin Luchaka répond.
C'était une journée inhabituelle à Kinshasa dans certains établissements publics, au ministère des Affaires étrangères, tout comme à la fonction publique, ou encore au ministère de la Justice, par exemple, l'engouement n'a pas été au rendez-vous. Certains responsables de direction rencontrés n'ont pas reconnu la ville morte. Tout compte fait, la police était présente pour prélever les présences physiques. Toujours à Kinshasa, la circulation était moins dense, facilitant la fluidité sur les grandes artères habituellement embouteillées. Même dans les écoles, parfois les élèves n'y étaient pas, parfois ils y étaient, mais n'ont pas à étudier faute d'enseignants. Quant au commerce, l'engouement habituel n'était pas au rendez-vous sur l'avenue du commerce et au grand marché par exemple, à l'exception de quelques rares magasins qui ont ouvert et ont vendu normalement. Les supermarchés dans leur majorité ont aussi ouvert, même chose pour les banques, mais les clients n'étaient pas nombreux. Dans le reste du pays, à Kisangani, toutes les activités socio-économiques se sont déroulées comme d'habitude. Situation normale également à Matadi, dans le Congo central, tout comme à Beni, au Nord Kivu, où la population a vaqué à ses occupations. Situation similaire à Mbandaka, Boende et Gemena, dans le Grand Équateur. À Lubumbashi, un nombre important de magasins, écoles, transports publics et autres commerces ont fonctionné normalement, mais dans la commune de la Kenya, la journée a commencé timidement. Ici, on signale des brèves échauffourées entre policiers et manifestants. La journée plutôt normale, ce 16 février à Mbujimayi, seule particularité, le renforcement du dispositif sécuritaire. À Kindu, pas de ville morte. Cependant, les membres des partis politiques de l'opposition, en dehors de l'UDPS, ont assisté à un culte d'action de grâce en mémoire des victimes du 16 février 1992, appelées martyrs de la démocratie. Notons tout de même que les écoles consulaires de Kinshasa et Lubumbashi n'ont pas ouvert les portes à leurs élèves pour des raisons de sécurité.
Merci Berry Franklin Luchaka. Honorable Christophe Lutundula, vous êtes député national de l'opposition et président du parti politique Mouvement de solidarité pour la démocratie et le développement MSCD, membre du G7. Honorable, rappelons que pour avoir pacifiquement réclamé la réouverture de la conférence nationale souveraine en 1992, beaucoup de chrétiens et croyants ont été tués par les soldats du maréchal Mobutu. Sous quel signe placez-vous cette commémoration?
Bien, d'abord, je corrige, le parti s'est mué en ADP, Alliance des démocrates pour le progrès depuis l'année passée et l'autorité compétente a été saisie. Ceci dit, je voudrais y corriger en même temps l'abbé Poudou, lui rappeler plutôt, j'ai marché le 16 février avec Martin Fayoul. Nous étions dans une association. Le but de la marche du 16 février, c'était d'obtenir l'ouverture, la réouverture de la conférence nationale souveraine qui était fermée par un pouvoir dictatorial. Au fond, le Congolais réclamait la poursuite du processus de démocratisation et exprimait leur volonté de tourner définitivement la page au régime autoritaire. C'est très clair. Maintenant, à la date d'aujourd'hui, vous êtes à Kinshasa, comme tant d'autres qui nous écoutent, qui sont dans le pays, nous sommes dans une situation semblable à quelques détails près à celle que nous avons vécue à l'époque de la conférence nationale souveraine. Grosso modo, la démocratie est menacée. La constitution de la République est menacée. La cohésion nationale est menacée. La voix du peuple est étouffée. Il n'y a pas de récupération politique. On ne peut pas faire, en tant que citoyen, comme si nous n'étions pas astreints à un devoir de mémoire, à un devoir de reconnaissance. Et je suis désolé, je suis révolté de voir que le gouvernement de la République, issu de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire d'une institution des élus, dont certains continuent à dire qu'ils sont de la majorité, on en parlera, c'est ce gouvernement-là qui dit aux Congolais, le 16 février, banaliser la mémoire des martyrs de la démocratie. Est-ce que cela est possible? Voilà le vrai problème. Donc il n'y a pas de récupération. Des deux, par rapport à ce qui s'est passé, il est clair aujourd'hui que ceux qui ont observé la ville morte, et c'est important de souligner que quand vous voyez la géographie de la ville morte aujourd'hui, c'est d'abord Kinshasa, ensuite le nord et le sud Kivu. Ça a une signification politique. Ces gens-là ont répondu à l'appel de l'opposition et de la société civile qui portait sur des questions précises. Non au glissement, non au troisième mandat, non à la présidence à vie, non à la violation de la constitution du 18 février 2016. Oui à l'organisation des élections présidentielles dans le délai constitutionnel. Oui à l'alternance politique. Eh bien, on a rejeté catégoriquement toute attitude, tout comportement, d'où qu'il vienne, qui soit contraire à ces réponses-là. Les Congolais, aujourd'hui, ont désavoué sans équivoque la majorité, son autorité morale
honorable
et leurs partisans qui, depuis un temps, se sont manifestés dans le sens de l'unité des violations de la Constitution et dans le sens de bloquer le processus électoral. Je crois que le message est très clair.
Honorable Lutundula.
Je vous en prie.
Honorable, vous dites que la ville morte, dans son observation, ne l'a été dans son observance, ne l'a été qu'à Kinshasa, Nord Kivu, Sud Kivu. Et pour vous, est-ce une réussite ou un échec?
Non, attendez là. J'ai pris ces deux régions géographiques pour dire ceci. Kinshasa, c'est 10 millions de Congolais. Kinshasa, c'est le siège des institutions. C'est-à-dire, ce sont des Congolais, l'échantillon de notre nation, qui voient, qui vit au jour le jour avec ceux qui dirigent la République. Et cela, quoique on nous ait convié il n'y a pas longtemps à des marches de soutien, à des déclarations de soutien, à des mobilisations des jeunes à rappeler à souhait le parti État de triste mémoire, la deuxième République de triste mémoire, quoique tout cela ait été fait, le déploiement de militaires, de policiers, de lettres de menace, de communiqués de menace à l'égard des fonctionnaires, eh bien, Kinshasa nous a dit que ceux qui dirigent le pays aujourd'hui sont en dehors du contrat social. Et qu'ils ne sont plus d'accord, qu'ils n'incarnent pas cette république démocratique pour laquelle on s'est battu depuis la fin des années 50. Je prends le nord et le sud qui vont. Ouvira, Beni, Fizi, Baraka. Vous savez qu'à l'Est, nous ne le souhaitons pas. Les efforts doivent continuer de déployer. Ils vivent le calvaire de la violence, des guerres. En fait, ils nous disent ceci, qu'ils en ont marre, qu'on ne peut plus continuer et que le leadership actuel n'incarne plus l'alternative pour eux. C'est ça la portée politique du message. D'ailleurs, ça n'a pas été fait. Nous ne sommes pas là pour raconter des histoires. On ne veut pas faire du plein politique avec du vide intellectuel ou du vide moral. Ailleurs, merci, ça n'a pas été fait combat Kinshasa. Et c'est simple à comprendre.
Merci,
il y a des villes comme Lubumbashi qui vivent en état de siège sans délire. Il y a une menace. L'emploi ou la fonction publique.
Merci, honorable.
Ceux qui travaillent à l'intérieur, ce sont des fonctionnaires.
Merci, honorable. Merci, honorable. Donc, je vous redonne la parole tout à l'heure. Merci, honorable Lutundula. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Monsieur l'ambassadeur Atundu, vous êtes porte-parole de la majorité présidentielle. Pour vous également, sous quel signe placez-vous cette commémoration du 16 février?
Le 16 février est la commémoration d'une vertu républicaine essentielle. C'est le sacrifice suprême. Et dans notre pays, nous avons deux cas emblématiques, Lumumba et Kabila Laurent. Et donc, la journée du 16 février devait être comme une communion entre ces martyrs, ceux du 16 juin, du 16 février, Lumumba et Kabila. Alors, M. Labbé a raison que ceci est malheureusement une tentative de récupération. Parce que ils ont voulu instrumentaliser d'abord, il faut s'en souvenir, les lieux de culte pour créer une confusion dans l'esprit de l'opinion, à savoir que telle église n'est pas d'accord. Et l'église a réagi contre cet amalgame-là. Mais ceci
fait allusion à l'église catholique.
Notamment. Mais ceci dit, là, il nous avait promis une journée ville morte et même pays mort. Une opération de ville morte vise deux objectifs. D'abord, à dérégler le déroulement normal de la journée. Ensuite, à paralyser la ville et, dans la prétention, le pays. Peut-on dire aujourd'hui, maintenant et honnêtement, que la ville a été paralysée, que la vie quotidienne a été déréglée? Non. Ils nous avaient promis un verre vide. Ils nous ont présenté un verre aux trois quarts rempli. Peut-on parler de satisfaction pour les gens qui visaient autre chose? C'est un peu la joie tragique de quelqu'un qui a échoué et qui ne s'en rend pas compte.
Mais monsieur l'ambassadeur, dans cette configuration où des fonctionnaires ont été forcés à venir au travail, où des policiers prélevaient la présence, on a vu dans certaines villes comme Lubumbashi, où on nous a signalé, d'après certaines sources, que le maire passait de magasin en magasin, obligeant certaines personnes à ouvrir. Si vous ne le faites pas, on note votre nom. Dans un contexte où vous avez été ambassadeur, des écoles consulaires françaises, américaines et autres n'ont pas fonctionné. Comment vous analysez ça?
Non. Les écoles consulaires et autres n'ont pas fonctionné par panique injustifiée.
Simplement.
Par panique injustifiée. Ils croyaient, on ne sait jamais, ça peut déraper. S'agissant des fonctionnaires, il est important de rappeler le contrat qu'ils ont avec la société à travers, avec l'État à travers les diverses institutions. Ce qui est garanti par la Constitution, c'est qu'aucune initiative ne puisse gêner le fonctionnement normal des institutions. Comment peut-il un juriste s'en prendre à une institution, à un État, qui demande à ses agents de se rendre au travail parce que ce n'est pas un jour férié? C'est quand même le comble.
Alors, monsieur l'ambassadeur, revenons sur les revendications de l'opposition par rapport à cette journée. Ces revendications ont-elles un sens, selon vous, le respect de la Constitution, l'alternance en 2016?
Est-ce que moi, personnellement, je ne connais pas un acteur de la vie politique qui est contre la Constitution, qui est décidé à la violer, qui n'est pas pour l'alternance? Je ne connais pas. Alors, tout ceci me rappelle un peu. C'est un peu du Don Quichotisme.
C'est-à-dire
ils vont en guerre contre des moulins en vent. Le problème aujourd'hui, c'est d'abord le processus électoral qui risque de nous amener dans une situation non conforme par rapport aux exigences de la Constitution. Et donc, lorsque le garant de la nation vous appelle, appuyé en cela par les plus hautes autorités morales et politiques du monde, il faut avoir l'humilité, lorsque on a pris un mauvais chemin, de revenir et de mettre au devant les intérêts majeurs de notre peuple, de notre démocratie et de notre État, au-delà des frustrations personnelles et des ambitions précoces.
Et donc, pour vous, les revendications de l'opposition n'ont pas de sens?
Pourquoi pas? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais dites-moi, qui a dit aujourd'hui que la Constitution doit être violée? Qui refuse aujourd'hui l'alternance?
L'opposition a souvent dit que c'est dans les faits que ça se voit.
Procès d'intention, qu'il montre ses faits. Quel est le fait probant qui montre qu'aujourd'hui, la société civile ou l'opposition ou la majorité est décidée à violer la Constitution?
Alors, très brièvement, monsieur l'ambassadeur, avant que je ne donne la parole au professeur Mbouéboua, l'honorable Lutundula a dit que cette commémoration avait une signification politique, notamment dans certaines parties du pays où ce mot d'ordre a été suivi, notamment Kinshasa, Nord et Sud Kivu. Comment vous percevez cette analyse? Est-ce que vous, de la majorité, vous entendez cette frange de Congolais qui semble avoir un autre message que le vôtre?
Ça, c'est vouloir noyer le poisson dans l'eau. Quel est le débat aujourd'hui? Est-ce que la ville morte a réussi, oui ou non? Elle a échoué à Kinshasa, sur les grandes villes, dans les grandes villes et sur l'ensemble du territoire.
Professeur Mbouéboua, vous êtes professeur et politologue enseignant à l'Université catholique au Congo. Professeur, pour vous, mettons les choses dans leur contexte, la date du 16 février 92, 24 ans après, qu'est-ce qu'elle représente pour vous?
Disons, la date du 16 février représente pour tout Congolais quelque chose. Parce que ces jours-là, il y a des Congolais qui ont marché pour réclamer la réouverture de la conférence nationale souveraine où il y avait beaucoup d'espoir d'un Congo nouveau. Les gens espéraient qu'avec la CNES, beaucoup de choses allaient changer et effectivement, ne pas penser à cette date, ce serait quand même faire un peu fi à la mémoire de ces gens-là. Par exemple, à l'Université catholique du Congo, c'est depuis longtemps que les évêques avait décidé que le 16 février, c'est un jour chômé. On ne travaille pas là-bas depuis des années, donc ce n'est pas seulement à cause de cette année. Donc, il y a certaines instances qui ont toujours considéré que le 16 février, c'est une date importante. Alors voilà, les évêques ont parlé l'année dernière du 16 février, il fallait faire des marches, ainsi de suite. Alors il y a la récupération, comme on peut le dire, hein. Ça veut dire les hommes politiques ont voulu aussi coïncider le 16 février avec leur agenda.
Majorité comme opposition d'ailleurs.
Voilà, c'est ça qui vient déranger. Parce que normalement le 16 février c'est un jour où tous les Congolais se souviennent qu'ils ont quand même revendiqué les droits à ceci, à cela. Ça c'est tout à fait légitime. Et donc, personnellement, je ne vois pas que le 16 février, c'est une question de l'opposition ou de la majorité, parce que nous sommes dans un autre contexte. Nous ne sommes plus dans ce contexte-là de l'époque. Et donc, le 16 février a sa valeur, hein, a sa valeur historique. Pour nous tous comme Congolais, nous pouvons dire, c'est bien, c'est important de ne pas oublier, n'est-ce pas, les martyrs, ceux qui sont tombés le 16 février, n'est-ce pas, 1992. Dans ce sens-là, c'est quelque chose. Mais maintenant, chercher à ce que le 16 février devienne autre chose, à mon avis, ça c'est quelque chose qui vient un peu déranger, justement, même
La symbolique.
La symbolique. Donc on vient déranger, on vient entourer ça d'autres calculs, d'autres agendas. Et finalement, qu'est-ce qui arrive? Il y a d'un côté les gens de l'opposition qui pensent qu'aujourd'hui c'est très important pour eux de faire quelque chose, et ils considèrent que ceux qui sont de la majorité, eux, ils voient le contraire. Je ne suis pas certain que c'est tellement différent, hein, dans la tête des Congolais, parce qu'il y a les Congolais des deux côtés.
À vous entendre, professeur, peut-on dire que la classe politique congolaise a raté l'occasion de s'unir?
Je pense bien, on peut le dire dans ce sens-là. Le 16 février, c'est une date importante. Comme je l'ai dit, au niveau de l'Église catholique, c'est depuis longtemps que les évêques ont décrété que c'est un jour, par exemple, à l'Université catholique du Congo, on ne travaille pas. C'est un jour qui est férié. Aujourd'hui, il n'y avait pas d'examen. Donc, les étudiants, nous sommes en période d'examen. Ils savent depuis longtemps, c'est un jour où on ne travaille pas là-bas. Ils n'ont pas travaillé, c'est un jour chômé. Et donc, on peut accorder à une journée pareille un peu l'importance des rappels, rappeler à tous les Congolais de tous les bords que nous ne devons plus répéter, n'est-ce pas, ce qui a fait tomber les compatriotes il y a 24 ans. Dans ce sens-là, on peut célébrer, n'est-ce pas, cette journée comme une des étapes, parce qu'il y a eu quand même plusieurs étapes pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes un peuple en train de forger son chemin, n'est-ce pas? Et ça, ça fait partie de notre marche, de notre histoire comme Congolais. Et cette histoire, à mon avis, n'est pas le fait d'un groupe contre un autre.
Alors, professeur, quelle est la signification politique de tous ces remous qui s'observent dans l'opinion publique nationale aujourd'hui? Les acteurs politiques sont-ils capables d'écouter ou de discerner la volonté du peuple congolais à travers ces remous?
Je pense que pour le moment, c'est un problème seulement de démonstration de force.
Dans l'un comme l'autre camp.
Voilà, c'est ça que moi je vois à travers le 16 février. Au lieu que ce soit un jour où tous nous mettons ensemble, en train de dire plus jamais ça, essayons d'aller de l'avant, que ceux qui sont morts ne soient pas morts pour rien, nous on se met maintenant à se tirer dessus. C'est ça que moi je trouve qui est un peu dommage. Et je pense que c'est aussi dans ce sens-là que la Ben Pundu, n'est-ce pas, regretter cet esprit de récupération. Mais, personnellement, je crois que c'est une date importante dans la marche de notre démocratie, que tous les acteurs politiques ne devraient pas oublier quand même qu'il y a des gens qui sont morts pour que dans notre pays, on puisse aller de l'avant.
Alors, professeur, au regard de la symbolique de la journée du 16 février, peut-on dire que le pays est aujourd'hui suffisamment avancé sur le chemin de la démocratie, de la protection des libertés publiques, par exemple?
Vous savez que notre problème au Congo, c'est le problème de mémoire collective. Si vous regardez, généralement, les Congolais oublient tout ce qu'ils vivent, en fait. Même les choses essentielles. Parfois, ils travaillent contre eux-mêmes. Contre leur propre bien. C'est ça le drame qui est ici. Et donc, parfois, il est important que le pouvoir public prenne le temps de rappeler un peu certaines choses qu'ils doivent faire, n'est-ce pas, qu'ils doivent souder les Congolais au lieu d'amener les Congolais à discuter dans tous les sens. Parce que, à la fin, il n'y a pas quelque chose que nous pouvons considérer comme de positif.
Merci.
De tous côtés, sans que ça soit récupéré, et ça, c'est dommage.
Merci. Honorable Lutundula, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi.
Des choups mouïdirois à partir de Lubumbashi. Cette date du 16 février devrait interpeller tout le monde et particulièrement les gouvernants. Notre pays va petit à petit vers le déraillement car au regard de tout ce qu'on voit et entend par rapport au processus électoral, rien ne rassure qu'il y aura élection présidentielle et législative en 2016. Le gouvernement fait tout pour aller au-delà de son mandat. L'opposition, quant à elle, semble aussi ne pas savoir ce qu'elle cherche parce que demander aux gens d'observer une ville morte, ce n'est pas ça la solution. Du fait que nombreux travaillent chez les privés et je ne vois personne qui allait risquer son emploi sur Christian Lubumbashi. Je n'ai donc pas du tout apprécié cette stratégie car ça n'a pas d'impact direct sur les calculs des tenants du pouvoir.
Honorable Lutundula, j'ajoute la réaction de Dos Santos Fak qui dit « La démocratie n'est pas à rechercher dans la consécration de la ville morte. Ça, c'est une faiblesse de la part de l'opposition. Au lieu de penser à des choses sérieuses comme l'organisation des élections, elle se limite à interdire la population d'aller au travail, honorable. »
Bon, écoutez, vous savez, dans nos pays, en Afrique, les opposants n'ont raison que quand ils ne sont plus. Juste un petit mot avant de revenir à cette question. Le 16 février, c'est un événement hautement politique comme le 4 janvier, date à laquelle nous célébrons la mémoire des martyrs de l'indépendance. Donc, je ne sais pas par quel astuce on peut sortir le 16 février d'une marche ou d'une démarche politique. Donc, dire qu'il y a récupération politicienne, je ne sais pas à quoi ça rime tout cela. Et deux, nos amis de la majorité ont promis d'organiser aujourd'hui une marche, supposée une marche pour commémorer la mémoire de Marty de la démocratie. On n'a vu personne. En fait, c'est quoi? De la même manière, on n'a jamais fait du 16 février une date à commémorer sur le plan national. De l'autre côté, on s'est dit, bon, écoutez, on va coincer. Nous allons créer des incidents pour justifier la répression. Mais la population, le peuple a été très intelligent, très mûr, très malin, et il a dit avec nous, on ne va pas aller dans le sens de la violence. Peut-on nous reprocher, parce que nous faisons la politique, encore que les 16 février, j'étais là, les papas Iléo et d'autres qui sont de politiciens étaient là, plutôt nous reprocher d'avoir pensé à ce martyr-là. C'est ça la question de fond. Quelle que soit l'étiquette que l'on a, quel que soit le manteau que l'on porte, c'est un devoir citoyen, un devoir de mémoire. Peut-être aurions-nous voulu que l'Église catholique, parce que le prophète là, qui parle de l'Église, nous ait convié aujourd'hui à une manifestation commémorant la mémoire de ce martyr-là. Je ne crois pas que le problème se pose à ce niveau. Et je vous ai dit au départ, mes chers amis qui m'écoutaient, que si nous nous sommes inscrits dans cette démarche-là, c'est parce que le problème d'aujourd'hui, c'est d'abord un problème de démocratie. Je crois qu'on peut tourner la page de cette histoire de récupération, de récupération. On ne peut pas reprocher à un citoyen d'organiser une manifestation citoyenne parce que il est politique. Deuxième élément, le droit de manifester, d'exprimer ses opinions, la liberté de penser, la liberté d'association, tout cela est garanti par la Constitution. Je ne ferai pas injure à nos auditeurs en répétant qu'aujourd'hui, ce n'est pas comme il y a quelques années. Et quand Alain Atoul nous dit que bon, ça va bien, tout ça, mais dans un pays où ça marche bien, on ne coupe pas le signal d'une radio comme RFI. Dans un pays où ça va très bien, il n'y a pas des échauffourées, paraît-il, avec mort d'hommes comme à Goma, autour d'une date historique. Dans un pays où il y a démocratie, on ne peut pas, à une heure donnée, il paraît qu'il n'y a pas longtemps, une chaîne de télévision a annoncé qu'on couperait l'Internet. Il y a des problèmes de démocratie dans notre pays.
Honorable
on ne peut pas, sous prétexte d'un équilibrisme, sortir de là. Venons-en maintenant.
Honorable,
à l'intervention, aux intervenants. Oui, je vous en prie.
Oui, il y a l'auditeur Chouk Mouigiroua que nous venions d'entendre tout à l'heure qui lui pensait que la stratégie de la ville morte n'était pas efficace. Brièvement, qu'est-ce que vous lui répondez?
J'en viens. Si vous n'avez pas pris la parole à la gauche, j'allais dire ça. Vous savez, et j'ai dit à vos compatriotes, j'espère qu'ils suivent l'actualité, l'opposition, en particulier le G7, la dynamique de l'opposition, le Front citoyen, société civile, nous ne faisons qu'écrire, que demander, que faire des déclarations pour dire, pas de distraction. Le problème d'aujourd'hui sont des problèmes techniques. Calendrier électoral, le financement s'est résolu, enrôlement de nouveaux majeurs, c'est-à-dire des mineurs d'hier, ne perdons pas du temps.
Merci.
Nous le disons toujours. Si du côté du pouvoir, il y a une réceptivité, on n'en serait pas là, on n'en serait pas à revivre.
Merci. Merci, honorable Tundula. Je vous redonne la parole tout à l'heure pour la conclusion. Monsieur l'ambassadeur Atundu, il y a également pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi.
C'est Daniel Fabrice Abongo, depuis Lubumbashi, honore Katanga. Si cet appel de la société civile et de l'opposition émanait du pouvoir, on verrait comment est-ce que le message des journées fériées et mépayées passerait à tous les médias. Mais parce qu'on parle bien du respect de la Constitution, il faut chercher à sanctionner, voire à révoquer les misérables fonctionnaires de l'État qui veulent faire entendre leur voix. En tout cas, c'est une autre forme de dictature de la part des autorités de la République du Congo. Je vais aller par un exemple. Les marches de soutien aux familles dialogues n'ont jamais été inquiétées.
J'ajoute deux réactions pour vous, Monsieur l'ambassadeur Atundu. Patrick Banyanga, le pouvoir devrait tirer des leçons de cette journée qui a été presque respectée partout pour comprendre que le peuple congolais est du côté de ceux qui prêchent pour les élections dans le délai constitutionnel. Chico Bassa a demandé à la population de vaquer normalement à ses occupations. Cela n'est pas une meilleure façon de résoudre les problèmes, mais la meilleure de choses est de chercher par quels moyens on peut convaincre son peuple et chercher à gagner sa confiance en respectant ses engagements, Monsieur l'ambassadeur.
Merci. Il ne faut pas confondre un État et un fait privé. Un jour férié, c'est de la compétence d'un État. Et un fait privé, un acteur privé ne peut pas déclencher et décréter un jour privé. Un jour férié. Et d'autre part, il n'y a pas de liberté sans contrainte. Et toute démocratie repose sur trois piliers. À savoir le respect de l'ordre public, le respect de la moralité publique, le respect des uns et des autres. Et donc, lorsque l'honorable Lutundula me parle du Congo comme de l'enfer, des privations de liberté, je suis tenté de penser qu'il était en vacances et qu'il vient de rejoindre notre terre. Que s'est-il donc passé en France par rapport à la liberté? Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis par rapport à la liberté? Et donc, je voudrais dire que la démocratie est une réponse géostratégique du peuple aux problèmes de son environnement politique. Et quand l'auditeur dit le pouvoir devrait réfléchir, et non. Il faut inverser. C'est l'opposition qui doit réfléchir sur ses relations tourmentées et floues avec la population. Lorsque sur l'ensemble du territoire national, on épingle quelques îlots partiellement, où l'opération a partiellement réussi, on dit non, mais c'est une réussite totale.
La majorité ne devrait-elle pas aussi en tirer de leçons?
Nous en tirons de leçons. La leçon, c'est que il faut aller au dialogue. Parce que c'est le seul endroit, le seul espace où chacun peut dire en toute souveraineté ce qu'il pense, proposer ce qu'il pense être la solution et déclencher peut-être un mouvement d'aspiration commune.
Le dialogue serait-il une baguette magique?
Le dialogue n'est pas une baguette magique. Le dialogue, c'est le principe actif d'une société. Lorsque une communauté, on va dire une foule des gens, ne communique pas, on ne parle pas de communauté. Et donc, un État doit entretenir absolument le dialogue. Le dialogue, c'est aussi un hypotenseur des relations. Lorsqu'il y a crise, lorsqu'il y a tension, eh bien, c'est grâce au dialogue qu'on le fait, même quand on se fait la guerre. Avez-vous entendu que les Israéliens, les Palestiniens n'avaient pas de rapport entre eux, ou même pendant la guerre? Le dialogue, c'est aussi un régulateur de la vie communautaire. Lorsque vous voulez entrevoir quelque chose, un souvenir ou un événement à organiser, vous vous mettez ensemble pour parler. Alors, quel est ce démocrate bien pensant qui va mettre en doute la valeur structurante du dialogue pour la démocratie? Parce que la démocratie, c'est un régime où chacun peut penser ce qu'il veut, et il faut qu'il y ait une identité commune à construire ensemble, une aspiration commune à construire ensemble et une volonté commune à dégager ensemble.
Une question à laquelle vous répondez brièvement, monsieur l'ambassadeur, y aurait-il quelque chose de pertinent dans la position défendue par l'opposition?
Quelle position?
Défendue par l'opposition.
Laquelle? Je ne sais pas.
Sur la révision de la Constitution, l'alternance, y aurait-il quelque chose de pertinent dans tout ça?
Brièvement. Le problème ne se pose pas. Personne n'est contre la Constitution. Personne n'est contre l'alternance.
En même temps, il n'y a rien.
Mais seulement, il ne faut pas cultiver l'obscurantisme dans la gestion de la démocratie. Parce que la démocratie ne se limite pas seulement à dire non. Il y a aussi des oui. Il y a des droits. Il y a des devoirs.
Merci, monsieur l'ambassadeur. Professeur Mboibo, il y a pour vous cette réaction qui nous vient du Sud Kivu.
À Bambou, la dédonnée Médard depuis Uvira au Sud Kivu. Le 7 février devait être le jour où la majorité et l'opposition devaient transcender leur clivage politique pour se consacrer aux travaux de réflexion sur le processus démocratique en RDC et rendre hommage aux martyrs de la démocratie. De surcroît, le 7 février n'est pas le 24e anniversaire de la majorité et de l'opposition actuelle, mais des martyrs de la démocratie.
Voilà, professeur, il est pratiquement revenu sur les propos que vous avez tenus précédemment. J'ajoute cette réaction de Robert de Bukavu qui dit « Ce qui est souhaitable, ce serait l'organisation d'un dialogue sincère opposition-majorité, seul cadre où les uns et les autres puissent harmoniser leurs divergences pour résoudre efficacement les problèmes à la base de la crise en RDC, professeur. »
C'est important, vous savez, aujourd'hui, à cause des mauvaises interprétations, à mon avis, des uns des autres. Le 16 février passe comme si c'est une date en fait qui dérange quelqu'un. À mon avis, au niveau des autorités, ce serait quand même souhaitable que le 16 février soit organisé comme une date où nous nous rappelons, nous nous souvenons dans notre marche qu'il y a eu quand même des victimes pour ces processus de démocratisation de notre pays et qu'il faut faire attention de ne plus retomber dans ce qui avait amené à ces abus-là. Et donc, dans ce sens-là, moi, je ne pense pas qu'on devrait, pour une date comme celle-ci, n'est-ce pas, commencer à s'étirer dessus. Mais parce que, en fait, aujourd'hui, l'opposition a voulu organiser la ville morte, la majorité à travailler dans l'autre sens. Alors, à ce moment-là, ça donne l'impression de banaliser le 16 février. C'est là où nous perdons un peu quelque chose, et que à l'avenir, n'est-ce pas, on a intérêt à organiser que ce soit un jour où ce n'est pas la majorité qui se sent concernée ou visée, parce qu'elle n'était pas là à cette époque-là. Donc, nous sommes dans un autre contexte. Donc, le 16 février, c'est une date qui est une date où tous les Congolais doivent célébrer, n'est-ce pas, la victoire, n'est-ce pas, de la démocratie sur la dictature. Et donc, dans ce sens-là, moi, je crois que nous devons travailler dans ce sens-là.
Alors, professeur, quelles leçons peuvent tirer les acteurs politiques de cette journée, dans sa symbolique historique, comme dans ce que le peuple a manifesté aujourd'hui?
Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Hein? La journée n'a pas été comme une journée normale. Donc aujourd'hui, les gens n'ont pas tous travaillé. Il y a des choses qui ont été dérangées. Les hommes d'affaires n'ont pas fait leurs affaires. Et c'est pas bon pour l'économie, hein, de notre pays. Et donc, c'est bien d'organiser une telle journée dans une forme qui ne dérange pas. hein, soit les hommes d'affaires, etc. Je comprends aussi que c'est un pas dans la bonne direction, parce que quand même, et l'apprentissage, n'est-ce pas, de la démocratie qui s'est fait de manière civilisée, où il n'y a pas des gens qui vont casser des choses, ils vont déranger, où il y a des gens qui sont morts parce qu'on a, on a brutalisé les gens, etc. Donc dans ce sens-là, moi je crois que c'est une journée qui se passe bien.
Alors, professeur, au regard de la manière dont s'est déroulée cette journée, que faut-il pour décrisper le climat politique en RDC, selon vous?
Je pense que les hommes politiques, les acteurs politiques congolais doivent se mettre d'accord pour célébrer correctement certaines dates importantes dans la vie de notre pays. Et on ne peut pas être, un peuple ne peut pas oublier tous ceux qui ont fait quelque chose pour que les pays aillent de l'avant, pas des monuments, des choses comme ça. Alors le fait quand même que nous parlons de ces martyrs et qu'on doit éviter à l'avenir d'avoir d'autres martyrs pour la démocratie, je crois que c'est important que les acteurs politiques trouve une forme qui permette aux citoyens congolais de connaître cette date-là, de ne pas oublier cette date-là.
Et en guise de conclusion, professeur, comment vous entrevoyez la suite du processus électoral dans un contexte comme celui-ci?
Je pense qu'il y a le dialogue là qui est attendu, là où les acteurs politiques vont aller se mettre d'accord. Tous les Congolais
semblent traîner malheureusement.
Mais c'est ça qui est un problème. Ça veut dire que les acteurs politiques doivent faire en sorte que cette question-là soit concrétisée et qu'ils aillent se parler. Ainsi, les petits peuples qui attendent les élections, n'est-ce pas, pourront quand même se donner des dirigeants qui vont animer les institutions de notre République. Et c'est important.
Honorable Lutundula, il nous reste moins de 3 minutes pour terminer cette émission. Que faut-il, selon vous, pour décrisper le climat politique en RDC?
Clair. Le peuple s'est prononcé clairement, il a dit ce qu'il veut, il veut sa constitution, il veut ses élections. Je voudrais m'adresser à mon grand frère Alain Atuntu. C'est un homme expérimenté, un homme intelligent. Lui comme moi, chacun de son côté, moi dans l'opposition, lui dans les MS Comagnola, nous avons vu le président Mobutu couler, nous avons vu le MS Comagnola couler. Il a le devoir sacré d'aider le président Kabila pour qu'il ne tombe pas dans les travers du passé. Il a le devoir sacré de faire en sorte que le chef de l'État comprenne que le peuple a besoin d'un geste de sa part. C'est lui qui a la clé, qui a ouvert la crise, la porte de la crise. C'est lui qui a la clé de fermer la porte de la crise. Il ne sert à rien de véhiculer auprès du chef de l'État de fausseté. La Constitution a été violée, commissaires généraux, et on peut continuer. Le peuple lui a envoyé un message clair. S'il vous plaît, grand frère André, ne cherchez pas à tirer un quelconque bénéfice des événements d'aujourd'hui. Transmettez au président qui nous suit.
Merci. Honorable monsieur l'ambassadeur, il y a un message clair qui vous a été adressé. Qu'est-ce que vous y répondez?
Eh bien, la date du 16 février n'est pas une date qui dérange, ni une date banale. Mais il faut garder à cette date sa vraie signification. C'est la célébration des martyrs du dialogue. Et c'est le sens du comportement de la majorité. En conclusion, je voudrais dire, il y a un commandant à bord du navire Congo et qui maintient le pays vers le cap de la démocratie, de l'émergence et de la paix sociale. Le dialogue est la voie royale pour dégager un consensus et mettre fin à tous les conflits.
Et donc pour vous, c'est la seule solution pour décrisper le climat politique?
Je vous ai donné le rôle du dialogue. Le rôle du dialogue, c'est un hypotenseur.
Allez-vous transmettre le message au président Kabila, pour terminer?
Bon, quelle prétention a-t-il? Il a été aux côtés du président Kabila, pourquoi a-t-il fui?
Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé. Pour ce soir, réalisation Kevin Coutier, assisté de Berry Franklin Luchaka, mise en onde Jean-Noël Mokondo, supervision Julien Nyamouini, coordination et présentation Alain Rung Mouchige. Merci à vous, chers auditeurs et internautes, de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la Radio de la Paix. Au revoir.